La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Au menu de notre émission ce soir, une question sensible mais qui relève aujourd'hui de la santé publique. Faut-il réglementer la vente de drogue et décriminaliser leur consommation ?
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin.
Dimanche prochain, sur la Une sera diffusé un documentaire sur les conséquences de la criminalisation des drogues sur les consommateurs. Un documentaire diffusé dans le cadre de nos émissions télé Libre Ensemble et réalisé par Pierre Schoenbroth, journaliste et vidéaste au Centre d'Action Laïque. À l'occasion de cette diffusion, nous avons décidé de nous pencher ce soir sur la démarche journalistique et citoyenne derrière ce projet, mais aussi sur le fond du sujet, la criminalisation des usagers de drogue. Et pour en parler, nous recevons trois invités ce soir. Alors déjà, bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Pierre Schoenbroth, donc réalisateur de ce documentaire. À vos côtés, Khalid. Alors Khalid, vous purgez actuellement une peine pour des délits liés à votre consommation de drogue. Vous êtes en fin de peine, donc vous disposez aujourd'hui d'un congé pénitentiaire et vous avez accepté de témoigner dans notre émission ce soir, mais aussi dans le documentaire télé. Et vous nous parlerez de votre parcours dans un instant. Et enfin, autre acteur de ce documentaire présent en studio ce soir, Chris Meurant. Donc vous êtes coordinateur social à la SBL Transit, un centre d'accueil et d'hébergement de crise pour usagers de drogue majeurs à Bruxelles. Et vous êtes également président d'iCare qui vise à promouvoir la santé en milieu carcéral. Alors, Pierre Schoenbroth, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un documentaire sur ce sujet ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement aux consommateurs de drogue ?
Bien, au Centre d'Action Laïque, ça fait presque 20 ans que nos collègues juristes de la cellule études et stratégies travaillent sur cette question à travers une commission qu'ils ont appelée commission drogue, ça ne s'invente pas. Et donc depuis tout ce temps, ils ont réfléchi à comment faire avancer le débat sur cette question-là. Alors dans un premier temps, il n'était pas clairement établi qu'il fallait se diriger vers une libéralisation totale du marché des drogues et un encadrement de l'État de cette distribution. Ça a été vraiment le fruit d'un long processus, d'une longue réflexion qui s'est matérialisée au mois de juin dernier, mois de juin 2017, à travers un projet de loi qui a été rédigé par des juristes. Donc, article par article, on retrouve maintenant le positionnement du CAL sur cette question-là, qui est en fait ni plus ni moins une libéralisation des drogues, un encadrement de sa distribution strict, par l'État. Et donc c'est évidemment une proposition extrêmement révolutionnaire, mais très difficile à comprendre pour le grand public. Et c'est là que nous, on est rentrés dans la danse. On s'est dit qu'il fallait accompagner ce travail de juriste par un travail un petit peu plus vulgarisant. Et donc l'idée était d'expliquer pourquoi le CAL avait envie d'évoluer sur cette question avec cette position assez révolutionnaire. Et le documentaire, je l'espère en tout cas, montre un petit peu et même beaucoup, pourquoi il est vraiment urgent d'évoluer sur cette question. Alors peut-être pas nécessairement dans le sens du CAL, mais en tout cas, il faut bouger sur cette question.
Alors on le sait, c'est un sujet qui est assez complexe, c'est pas un sujet facile. J'imagine que vous avez dû nouer une relation de confiance avec les différents acteurs pour pouvoir avancer dans ce projet.
Oui, c'est presque 8-10 mois de travail. Donc effectivement, Chris et Khalid, on se connaît beaucoup. C'est d'ailleurs assez touchant de se retrouver ici en studio. Et pour pouvoir vraiment évoquer cette question le plus authentiquement possible et le plus justement possible, je pense qu'il faut se connaître. Et puis il fallait surtout que moi je connaisse le sujet, rien que ça. C'est quand même costaud. Il faut gratter. Il faut surtout, je pense, que c'était ça le travail le plus difficile en ce qui me concerne. Au-delà de nouer la confiance des personnes qui ont décidé de participer à ce film, le plus difficile pour moi, c'était vraiment de gratter tous les stéréotypes, les idées reçues qu'on a sur les usagers de drogue et qu'on a sur la drogue en elle-même. Et donc voilà, même si je pense avoir déjà à la base un avis assez progressiste sur la question, je peux vous avouer que pénétrer sur ce terrain-là, c'est vraiment revoir... Tout progressiste qu'on est, c'est quand même revoir ces positions qui sont très 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 lourdement ancrées en soi.
Alors, un des acteurs incontournables de ce documentaire, c'est Transit. Alors, donc, Chris Meran, donc, je disais, vous travaillez à Transit. Alors, en quoi consiste en fait le travail de Transit? Quel est le travail que vous faites sur le terrain?
Bonsoir, merci à vous. Donc, Transit, c'est un centre d'accueil et d'hébergement de crise pour usagers de drogue, qui a comme particularité depuis 22 ans d'accueillir toute personne majeure rencontrant ou ayant rencontré des problèmes liés à une consommation problématique, et à partir de là, de démarrer une prise en charge en centre de jour en hébergement gratuitement. La perspective du centre, c'est de permettre à toute personne en errance, en difficulté, de trouver déjà un point d'ancrage, un lieu de resocialisation, et à partir de là, de faire émerger, au rythme de la personne, des perspectives en termes de projet. C'est une grosse équipe qui anime la vie du centre et qui prend en charge ces personnes, qu'on voit avec les années arriver de manière de plus en plus massive en termes de nombre au sein de l'institution. Donc c'est révélateur aussi d'une problématique en soi, d'une précarisation aussi de ces populations. Et quelque part, on renvoie avec un regard humain les perspectives qu'auraient ces personnes de se sortir d'une part de la rue et de mener à bien certains projets. Donc Transit n'est pas médicalisé, et à partir de ces hébergements de courte durée, on permet aux personnes de gravir un échelon supplémentaire et à partir de là de rester disponible aussi pour pouvoir écouter, aider et amorcer un chemin de vie avec ces personnes.
Et entamer une forme de resocialisation en fait.
Tout à fait. Et donc ce qui peut parfois paraître comme un petit rien, c'est déjà énorme. Donc simplement de permettre à toute personne à toute heure du jour ou de la nuit de franchir la porte, à partir de là de prendre un repas, une douche, avoir un lit et au rythme des personnes de commencer quelque chose. Et à partir de là, ces petits riens, pour nous, c'est déjà beaucoup. Et ça nous permet de consolider un lien. Et ce lien, Pierre y a fait allusion, c'est la base et les perspectives de tout ce qu'on va pouvoir mener avec ces personnes.
D'accord. Alors, Khalid, vous, Pierre et vous êtes rencontrés à Transit, justement. Alors, pourquoi est-ce que vous avez accepté, vous, de témoigner dans ce documentaire?
Tout d'abord, bonsoir aussi. Ma réponse, pourquoi j'ai accepté, Déjà, la rencontre qu'on a eue, Pierre et moi, a été extraordinaire dans le sens où c'est un ami en commun qui nous a présenté. Et avant que je voie Pierre, cet ami en commun m'a expliqué un peu le projet que Pierre voulait mettre en lumière. Et moi, par rapport au vécu que j'ai eu dans la consommation, j'avais besoin d'un exutoire en fait, j'avais besoin de parler en fait quelque part, et donc les choses sont venues et aussi témoigner et passer un message sur la consommation, comme a dit Pierre, tout ce qui touche à l'incarcération au niveau de la toxicomanie. Est-ce que c'est vraiment ça
la solution?
On doit distribuer des mandats d'arrêt à tout va pour des gens que on sait qu'ils ont fait des délits, mais c'est dérisoire comme délit, tout en sachant que chaque délit est punissable bien sûr, mais qu'il y a d'autres moyens que de mettre des gens en prison à partir du moment où je crois que ça a été reconnu comme une maladie. Qui dit maladie pour moi dit plutôt soin, pas une répression juste pour punir quelqu'un, pour le punir quoi.
On va continuer à parler de votre parcours, mais je vous propose de rebondir là-dessus parce qu'on parlait de soins, de questions de maladie. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview qui est diffusée dans le reportage, dans le documentaire. C'est une interview de Christophe Marchand, donc il est avocat. Il est président du groupe de travail donc, qui a rédigé la proposition sur les drogues du Centre d'action laïque. Et il nous parle de cette loi sur les produits psychotropes qui date en fait de 1921, donc presque 100 ans, et du fait que cette loi n'est plus adéquate aujourd'hui. On l'écoute.
C'est toujours très compliqué de parler de cette question des drogues à l'école, même je dirais dans l'entreprise, parce qu'il y a cette pénalisation qui fait que il y a un interdit, bon, moral, ça limite peu importe, mais pénal. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ça reste un délit de détenir toutes les drogues sauf le cannabis, mais ça reste un délit, et donc ça veut dire que c'est des peines de plus de 6 mois à 5 ans de prison. Enfin, je dis la consommation, c'est au pire, c'est un problème médical, mais c'est pas un problème pénal. Je veux dire, imaginons que c'est un problème médical, quelqu'un est affecté d'une maladie, c'est parce que quelqu'un est affecté d'une maladie, imaginons n'importe quelle autre maladie, le diabète par exemple, imaginons qu'on sanctionne fait d'être diabétique d'une peine de 6 mois à 5 ans de prison. Ce serait complètement absurde. La simple, je dirais, tolérance par rapport à la consommation ne suffit pas parce que celui qui consomme ne sait pas où s'approvisionner. C'est ça le grand problème. Et donc il tombe dans les trafics criminels, il est obligé d'acheter à la mafia, de revendre et donc de participer lui aussi de cette manière à cette mafia. Et donc là, il y a un cercle vicieux qu'il faut casser. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, oui, mais la tolérance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, c'est l'arbitraire, en fait. Moi, je pense qu'il faudrait une neutralité pénale. C'est-à-dire, oui, on peut interdire moralement, on peut interdire à l'école, on peut interdire au travail, mais pas interdire pénalement. La loi pénale, pour moi, doit rester vraiment limitée, je dirais, aux comportements les plus graves qui rencontrent l'adhésion, je dirais, de la société, et pas pour des comportements qui relèvent de la sphère médicale ou de santé publique.
Alors, Chris Meurant, pour vous, les drogues devraient effectivement être une question de santé publique et pas une question pénale ?
Oui, je pense qu'il faut absolument et urgemment sortir cette question-là du champ du pénal, parce qu'ici, moi, à Transit, ce que je constate, c'est les effets dévastateurs d'une politique prohibitionniste, les conséquences dramatiques pour ces personnes, et on sait tous très bien, des exemples, on peut en citer à l'appel, que la prison nuit gravement à la santé des personnes. Et donc, considérer cette problématique dans le champ de la santé publique ne pourra être, selon moi, que le seul chemin à tenir. Il faut imaginer que la prison ne va jamais rien régler en termes de problématiques pour une personne. Bien au contraire, elle va aggraver la situation, elle va sur-stigmatiser quelqu'un qui, au départ, avait effectivement un problème de consommation et qui, là, va en plus traîner un deuxième problème qui sera un parcours de justiciable. On ne sait que trop bien à quel point il est difficile pour ces personnes, après un temps de reconstruction, heureusement, et Khalid le peut en témoigner, pendant ce temps carcéral, combien ces personnes vont avoir des difficultés à se réinsérer. Et donc, je pense que le tout est de chercher à trouver des solutions différentes. Ces solutions-là existent. Ces solutions-là ne coûtent pas plus cher et ont une réelle portée sur du long cours en termes de santé publique.
Mais justement, Khalid, dans votre propre parcours, le fait que la consommation des drogues soit encore pénalisée aujourd'hui, ça a accentué finalement peut-être votre descente aux enfers à un moment dans votre parcours ?
C'est un engrenage, en fait. À partir du moment où on met quelqu'un en prison qui est consommateur, donc il y a deux choix qui se posent à lui. C'est-à-dire qu'on le met en prison et on se dit, ben voilà, on va régler le problème d'un toxicomane il est déjà doublement pénalisé parce qu'il est toxicomane qui consomme un produit qui est interdit, et il est pénalisé parce qu'il a fait un délit pour justement se procurer ce produit. Donc qu'est-ce qui se passe? On met ces gens-là en prison. Ok, à partir du moment où on les met en prison, il y a deux choix qui se posent à eux. Ou bien se prendre en main et faire un sevrage bloc, en l'occurrence ce que j'ai fait moi, parce que la deuxième solution...
C'est-à-dire un sevrage vraiment du jour au lendemain.
C'est-à-dire après quelques jours de traitement. Et il faut savoir qu'un sevrage bloc est très 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 physiquement, vous prend beaucoup de votre énergie. Et pourquoi? Parce que faire un sevrage bloc, c'est une solution. Parce que l'autre solution, moi je trouve qu'elle est très très négative. C'est-à-dire que on met à la disposition des gens des traitements. Ok, c'est bien de mettre à la disposition des gens des traitements, mais où je dis que c'est négatif, c'est-à-dire que, par exemple, moi, ça fait 3 ans que je suis en détention, et il y a des consommateurs qui, depuis 3 ans, sont en détention et continuent à prendre des génériques de ces drogues. Donc, c'est-à-dire ou méthadone ou des traitements de substitution. Dites-vous bien que quand ils vont sortir, ces gens-là, au lieu d'aller à la pharmacie s'acheter leurs produits, moi je suis à 300% sûr et certain qu'ils vont se diriger vers le produit en lui-même. Donc, où est la solution? C'est pas une solution, parce que traitement sans thérapie, ça sert à rien. C'est-à-dire que la personne va prendre son traitement tous les jours, mais il n'y a pas d'accompagnement thérapeutique, il n'y a pas de suivi thérapeutique. Donc c'est comme si on reconnaît qu'à moitié que vous êtes malade. Juste à moitié, quoi. Mmh. Je suis désolé, mais c'est pas leur rendre service pour leur prochaine réinsertion. Et comme a dit Chris, déjà que la réinsertion d'une personne qui est à l'extérieur et qui veut se réinsérer, il y a des endroits comme Transit, comme centre de crise, qui porte bien son nom, Transit, c'est-à-dire que vous transitez par là pour trouver une autre solution. Mais c'est toujours aussi en voyant si la personne est demandeur. À partir du moment où la personne est demandeur, il peut trouver, c'est-à-dire des gens qui vont l'orienter. Mais si la personne n'est pas demandeur, et là je parle des gens qui se contentent de prendre leur traitement tous les jours, personne ne va aller leur dire ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire pour ton projet d'avenir, non, prends tes traitements, c'est bien pour nous, t'es calme et tout. Je vous dis, ça c'est la réalité de la prison. La personne est calme avec ses produits. On le laisse comme ça et je trouve que c'est pas une solution.
Et le risque du coup, Chris Meurant, c'est que dès qu'elle sort, cette personne, elle retombe effectivement, comme Khalid le disait, dans la drogue.
Oui, tout à fait. Maintenant, je pense qu'il faut quand même aussi mettre un point positif en évidence, c'est que fort heureusement en Belgique, des traitements de substitution sont accessible en prison. Alors effectivement, il y a des écueils liés au manque de suivi thérapeutique autour de ces questions de mise sous traitement, mais au moins, il y a une possibilité qui est bien en place en Belgique depuis des années et qui est la perspective pour les consommateurs d'avoir accès à un traitement de substitution, sans quoi le régime de trafic souterrain sera encore plus important qu'il ne l'est déjà maintenant. La sortie de prison, c'est comme l'entrée en fait, hein, c'est un seuil critique. À l'entrée en prison, il y a un taux de suicide qui est massivement très important. Il y a un risque de passage à l'acte parce qu'il y a un désarroi pas possible lié ou non à la question des drogues. Hein. C'est vraiment l'acceptation d'un temps de privation de liberté qui peut vraiment être vécu de manière très très violente. Et dans les premières 24 heures de la sortie de prison, ça peut également être un gros gros risque de rechute et d'overdose. Et donc là, je pense qu'on a vraiment la cristallisation du problème du tabou des drogues. C'est que quelqu'un qui sort, s'il n'a pas un ancrage fort familial ou associatif avec un projet qui se met en place, ce à quoi Khalid faisait allusion, il se retrouve tout seul, sans argent en poche. Donc c'est récidive, bien souvent, avec des risques massifs d'overdose, sachant que la personne n'est plus habituée à des prises similaires autour d'un produit. Et ça, malheureusement, on ne le connaît que trop bien. Il y a heureusement des projets de continuité de soins qui sont en place, qui existent, mais l'articulation des soins en prison actuellement en Belgique pose également une série de freins, sachant que c'est la justice qui gère les soins de santé en prison, alors que là aussi, c'est selon moi la santé publique qui devrait être à la manœuvre.
Et on estime, alors juste comme précision, c'est qu'on estime qu'il y a un tiers des détenus qui sont enfermés aujourd'hui en raison des lits liés à des affaires de stupéfiants. Donc voilà, c'est pas un problème mineur en prison. Alors ce que je vous propose, c'est maintenant de faire une petite pause musicale. Alors on va écouter une chanson de Section d'Assaut, c'est Désolé. C'est une chanson qui a été choisie par Khalid et juste après, il nous expliquera pourquoi il a choisi ce morceau.
J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Moi aussi, les frères, je vais me barrer. Rejoindre tous les miens, les dingaris. Paris, c'est Alcatraz. Marre des amendes et tous ces tas de paperasses. Leur cœur est noir et fin comme un Sénégalais. À les entendre, on croirait que saigner fallait. Moi, je veux ma femme, mon dîner, mes gosses. Pour ça, crois-moi, j'emploierai bien toutes mes forces.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Pardonne ma grand-mère, s'il te plaît. J'serais revenu te voir si j'avais plus de blé. Mais t'sais, ici non plus, c'est pas facile. En France, la reste nous met des baffes aussi. Désolé aux profs de maths, d'anglais et de français. Vous inquiétez pas, mon père m'a bien défoncé. Désolé, monsieur le banquier. Mais si je m'arrache, vous allez pas me manquer.
Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler.
Maman, papa, je vous dis on diarama. Je sais que dans vos têtes, vous êtes déjà là-bas. J'ai beau dire que
alors,
je
Khalid, cette chanson, elle représente quoi pour vous?
Elle représente énormément de choses, en fait. Elle est, en fait, c'est une chanson qui est sortie en 2009. Et il faut savoir que moi j'ai comment dire mon chemin qui a rencontré la consommation a commencé justement dans ces années-là 2010 on va dire. Suite à une tragédie au niveau familial et ce qui se passe c'est que je me reconnais dans ce texte dans le sens où déjà c'est exactement ce que je voulais dire mais qui sortait pas en m'excusant au niveau de mes parents désolé donc et surtout le fait que j'ai fait ma consommation je l'ai fait à huis clos en fait pendant un an je me suis isolé pour en tant que, par rapport à mes amis à mes potes à ma famille par rapport à tout le monde je me suis isolé j'ai fait vraiment ma consommation à huis clos et pendant un an et pendant un an, j'ai utilisé plusieurs superfuges pour cacher. À un moment donné, ça s'est vu. Et une personne, qui m'a dit une fois quand on écoutait ce morceau, il me dit, mais en vérité, on dirait qu'ils ont écrit ça en parlant de toi, parce que les pavés, tous les pavés de Bruxelles, je crois que je les connais. Ce que disait Chris, la consommation égale l'errance, c'est-à-dire que la consommation, en fait, au début, on peut même être, PDG de je ne sais pas quoi, et on va se retrouver à se laver les mains dans les égouts, parce que la consommation vous perd tout, vous désocialise, elle vous ramène à un état, mais progressif, pas crescendo, petit à petit, mais pas vers le haut, vers le bas, mais crescendo, ces paroles de cette musique, pour moi, elles sont significatives du mal-être que j'ai connu.
On parle d'isolement, on parle de désocialisation. Du coup, je voudrais vous faire écouter un dernier extrait du documentaire qui parle justement de cet isolement. Et c'est à propos aussi des salles de, on pourrait dire des salles de consommation à ciel ouvert. On les voit bien dans le reportage. Donc Pierre Schoenbrod, vous avez suivi un autre Pierre, Pierre qui travaille à Transit et qui se trouve dans un terrain vague près d'un squat. Je propose de l'écouter et on réagira juste après.
Tu te verrais à leur place ici? Je pense pas. Enfin, qui se verrait ici? Je peux pas dire que ça soit où on voit de l'humanité ici. C'est, comme, tu vois, c'est déchet quoi. C'est déchet. Donc, est-ce que c'est la société qui veut ça, se dire voilà les déchets avec les déchets? Je sais pas. Mais non, je peux pas dire qu'on soit bien ici pour consommer. Non. Non, oui, t'es peut-être à l'abri des regards, etc. T'es sûr de pas être embêté, mais dans les conditions, imagine, il pleut, là, tu peux pas le faire, ok, tu vas te mettre à l'intérieur, mais. Puis tu sais pas ce qui s'y trouve ici aussi, tu vois. C'est. Non.
Toujours plus loin, toujours plus caché.
Toujours plus loin, toujours plus caché, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est. On repousse les frontières encore et encore. Si un jour ici ça vient être détruit, où ils iront? C'est déplacer le problème encore et encore et encore. Donc, non.
Donc, Pierre Schoenbrod, quand vous avez suivi ces travailleurs de transit sur le terrain, donc ils vont à la rencontre des consommateurs de drogue, vous avez vraiment eu le sentiment que la société voulait isoler de plus en plus ces consommateurs, les mettre le plus loin possible?
Très clairement, mais d'abord et avant tout, en suivant Pierre et Pauline, vraiment, j'en ai pas cru mes yeux. J'ai découvert une réalité de Bruxelles que je pouvais soupçonner, mais le voir et le suivre avec eux, on se dit qu'on se trouve dans une urgence sanitaire majeure et qu'au-delà du débat éthique, je pense que une société belge, bruxelloise, en 2018, ne peut plus tolérer ça. Il faut qu'on avance sur cette question. Donc là, les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment l'étape de la consommation clandestine, l'étape la plus misérable. Et c'est là qu'on retrouve effectivement ces salles de consommation à ciel ouvert. Et il faut à tout prix en finir parce que des gens risquent leur vie tous les jours aujourd'hui à Bruxelles, loin des regards. et la société se garde bien justement de faire en sorte que le grand public soit au courant, si ce n'est les riverains qui habitent tout près de ces salles de consommation. Et donc oui, c'est chaque fois plus loin et chaque fois plus caché, parce qu'aujourd'hui c'est la seule réponse qu'on a à leur donner, c'est-à-dire chasser ces drogués qu'on ne saurait voir et surtout aller consommer loin de nos regards. Et ça suppose pour les consommateurs d'aller se réfugier dans des trous à rats que même les rats d'ailleurs refusent d'aller s'y abriter.
Chris Meurant, en quoi une dépénalisation, en quoi une décriminalisation des drogues et des consommateurs de drogues pourrait vraiment améliorer la situation aujourd'hui ?
Voilà, le fait de réécouter mon collègue s'exprimer, je tiens vraiment à saluer tout leur travail, donc à la fois pour l'équipe de rue et celle du centre de crise. Et alors le travail que Pierre a pu mettre en évidence, c'est justement, vu la situation catastrophique qu'on connaît que trop bien, cette décriminalisation permettrait à un moment donné de traiter ces personnes comme vous et moi, comme monsieur, madame, tout le monde, qui serait à un moment donné victime d'un autre type de problème, d'arrêter de diaboliser cette problématique-là plus qu'une autre. Et des réponses comme des salles de consommation moindre risque seraient très concrètement déjà un espace où les personnes pourraient, en tous les cas, avec un encadrement spécifique, consommer en limitant tout risque de contamination pour les autres et pour leur santé. Donc je pense que décriminaliser les drogues, c'est simplement renvoyer dans le débat de la société civile cette question-là parmi d'autres et lui donner toute l'importance dont qu'elle nécessite avec un prisme au niveau de la santé publique. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire, on doit y aller, d'autres pays l'ont fait, les résultats sont probants, la Belgique s'entête à faire l'autruche, et une fois de plus on voit les résultats, enfin, les conséquences que ça donne, enfin, nous tous les jours nous les constatons.
Mmh. Mais c'est vrai que dans la proposition de loi du Centre d'Action Laïque par exemple, on accentue beaucoup sur la réduction des risques, et j'imagine que ça permettrait aussi de montrer que cette loi qui existe depuis 1921 ne fonctionne pas et qu'on peut sortir aussi du système mafieux dans lequel on s'enferme.
Tout à fait. Donc il y a une campagne qui est lancée là, actuellement par la FEDITO, le Centre d'Action Laïque, enfin Stop 1921. Je pense qu'il faut prendre la peine de lire les documents qui sont inhérents à cette campagne. C'est pas une révolution, c'est simplement, ça emprunte pragmatisme. C'est des constats probants et des perspectives réalistes, humanisante autour d'une problématique qui se doit d'être prise de cette manière-là. Les salles de consommation sont une des réponses que la réduction des risques, pour l'instant, accompagne à minima. Mais il y a une hypocrisie derrière ce qu'on peut donner maintenant comme matériel stérile d'injection, sachant que les personnes vont continuer à s'injecter dans des lieux que ceux que mon collègue a évoqués ici lors de l'extrait. Donc il y a une urgence socio-sanitaire à mener à bien une réelle politique de santé publique autour de ces questions-là.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais j'ai juste une dernière petite question à la fois pour Pierre Schoenbrod et pour Khalid. Pierre, est-ce que dans votre documentaire, vous avez vu d'autres acteurs, vous avez pu entendre d'autres acteurs qui étaient pour cette dépénalisation, que ce soit des acteurs du monde judiciaire, du monde de la santé
Oui, c'est l'autre grande surprise de ce projet. On a rencontré un procureur, celui de Tournai, son premier substitut, qui sont les premiers défenseurs de cette dépénalisation. Alors après, on peut rentrer dans les détails de quels produits, etc. Mais d'une façon générale, ils étaient tous deux parties prenantes pour une évolution de la loi en la matière. Alors l'autre grande surprise, ce sont les directeurs de prison. J'en ai côtoyé trois plus particulièrement. Tous les trois, unanimement, plaident non seulement pour une avancée au niveau de la prison en Belgique, mais plus particulièrement sur la question des drogues. Oui, ils sont aussi partie prenante pour une grande évolution et une grande révolution sur ce sujet.
Mais Khalid, vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ?
Juste une concrétisation de ma projection. Dans le futur, parce qu'il y a un moment donné où je me projetais pas, où j'étais quasi un mort-vivant, désociabilisé et envie de rien. Je recommence à prendre goût vraiment à pas mal de choses et je me projette. Donc si vous pouvez me souhaiter une concrétisation de mes projets, ça serait cool.
Alors on vous le souhaite, du coup, une concrétisation de vos projets. En tout cas, merci à tous les trois. Alors, on a parlé plusieurs fois dans cette émission de la campagne Stop 1921, une campagne qui sera mise à l'honneur au Théâtre de Poche à Bruxelles samedi prochain, donc le 24 février. Le documentaire dont on a parlé sera diffusé en avant-première à 16h30 et ensuite vous pourrez rencontrer des chercheurs, avocats, policiers, médecins, travailleurs de terrain qui expliqueront pourquoi il est urgent d'adopter une autre politique en matière de drogue. Et vous pouvez trouver toutes les infos pratiques sur le site du Théâtre de Poche, www.poche.be. Et donc le lendemain, dimanche 25 février à 9h20 sur la Une, on vous invite à regarder le documentaire « Criminalisation des drogues, la double peine ». Et enfin, je vous rappelle aussi que la proposition de loi du Centre d'Action Laïque concernant les drogues a été publiée sous la forme d'une brochure et que vous pouvez la télécharger sur le site www.laïcité.be. Voilà, merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.